RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
C'est le retour du week-end des experts, les animaux, avec Laetitia Barlerin qui m'accompagne comme chaque dimanche, vous le savez. 6h-8h, Laetitia, on a encore une heure à passer ensemble et puis juste après ce sera Jean-Luc Moreau qui me rejoindra entre 8 et 10. Pour votre rendez-vous auto, dernier rendez-vous auto et dernier rendez-vous animaux avant les vacances d'été. Et durant tout cet été, durant tous les week-ends du mois d'août, vous retrouverez des matinales spéciales pour les Jeux Olympiques, puisque vous le savez, RMC, la radio de ces JO de Rio. Laetitia, pour cette deuxième partie, on va découvrir la faune sauvage un peu partout, au bord de l'eau en France.
Voilà, parce que je pense que beaucoup d'entre vous partaient en vacances ou êtes déjà en vacances. Et alors, pourquoi ne pas observer les animaux sauvages? Vous savez que la faune sauvage en France est très très riche. Et c'est vrai qu'on on va souvent dans les zoos voir des animaux alors qu'il suffit d'observer. Mais encore faut-il connaître les bons coins pour les observer. Et pourquoi pas, si vous êtes sur la Côte d'Azur, aller observer les mammifères marins. Et nous sommes Philippe Mort, qui est éthologue, spécialiste du comportement des mammifères marins et réalisateur de documentaires animaliers. Philippe, bonjour.
Oui, bonjour à, bonjour à vous deux.
Bonjour.
Alors, vous connaissez bien les mammifères marins de Méditerranée. Dites-nous, pour commencer, quels sont ceux qui peuplent la Méditerranée?
Alors effectivement, en Méditerranée, on a une grande spécificité, c'est que nous avons beaucoup de mammifères marins. Donc baleines, dauphins qui sont présents. On a environ 6 espèces de dauphins qui sont représentatives ici dans le bassin de Méditerranée nord-occidentale. Et puis nous avons des grands cétacés comme les rorquals communs, donc la baleine,
oui,
qui est une des deuxièmes espèces la plus grande après la baleine bleue, hein, et des cachalots qui sont aussi présents durant toute la saison estivale dans notre bassin jurais.
Alors voilà, ces espèces viennent sur les côtes françaises?
Alors, elles sont déjà présentes en Méditerranée, mais nous avons la particularité, c'est d'avoir effectivement des zones de nourrissage qui sont assez propices donc à la présence de ces animaux, puisque notamment les baleines viennent se nourrir l'été de krill. Hein, c'est une toute petite crevette planctonique,
oui,
et qui va être l'alimentation, on va dire, privilégiée de ces animaux qui vont rester donc dans notre région durant toute la période estivale. Donc les baleines restent en Méditerranée, mais descendent vers la partie occidentale durant l'été.
Alors ça veut dire que là, c'est la bonne période pour observer les baleines et les dauphins?
Alors effectivement, les observations d'observations qui sont nées il y a maintenant à peu près une quinzaine d'années en France, le point d'origine, c'est la Côte d'Azur, avec notamment la ville de Villefranche-sur-Mer, qui a mis en place les premiers départs d'écotourisme baleinier.
Oui,
on appelle ça le whale-watching en anglais. Et ces observations donc se font, on va dire, de manière privilégiée entre la mi-juin et la mi-septembre, qui sont les moments propices où effectivement l'état de la mer, la possibilité aussi pour les gens de venir observer dans des conditions confortables ces animaux qui sont effectivement visibles à quelques milles de nos côtes. Alors effectivement, il faut aller un petit peu plus loin que la zone de plaisance, hein, qui reste une zone, on va dire, très très occasionnelle de rencontre.
Oui. Normalement,
il faut se déplacer à 10-15 milles au large, faire une bonne vingtaine de kilomètres. Mais pour cela, il y a des bateaux qui pratiquent ces activités, donc d'activités de transport d'écotouristes, hein, avec des vedettes à passagers, pour les gens qui veulent faire du whale-watching. Et puis pour les gens qui ont un peu plus envie d'aller dans le milieu marin, il y a aussi des bateaux qui font des interactions de nage à proximité des cétacés et qui se situent un peu plus du côté de Cannes-Mandelieu et d'Antibes.
Ça veut dire qu'on peut nager avec des dauphins?
Alors ça, c'est toujours le sujet très polémique.
Parce que tout le monde en rêve. Attendez, tout le monde a vu le Grand Bleu. Donc tout le monde veut nager avec des dauphins, c'est sûr.
Et bien sûr.
Exactement. Donc il y a effectivement une partie des écologistes qui trouvent que cette activité n'est pas bonne.
Bah oui.
Malgré tout, certains dont effectivement, moi j'ai eu la chance de pouvoir étudier ces comportements et ces interactions homme-animal pendant plusieurs années, on se rend compte que la dangerosité viendrait de l'intensification des activités. Or, depuis 16 ans, ces activités sont réglées sur quelques opérateurs, 3 opérateurs de nage exclusivement, et puis des vedettes à passagers pour ce qui est du whale-watching. Et on peut considérer que ces gens sont des professionnels responsables et ont pris d'ailleurs des engagements autour d'une charte de qualité pour pouvoir amener des gens non pas toucher les mammifères marins mais nager à proximité en snorkeling, donc ce qui représente pour ce type d'activité quelque chose de relativement, on va dire, confortable et éthique.
Il y a un code, hein, le whale watching, il y a quand même des règles à respecter justement pour ne pas les perturber.
Oui. Tout à fait. On est dans une zone de protection. On est dans la zone d'un sanctuaire de protection qui s'appelle le sanctuaire Pélagos. Oui. Qui a été créé maintenant depuis 10 ans. D'accord. Qui a pris, en fait, une volonté de protéger les mammifères marins entre la France, l'Italie et Monaco. Et donc, cet accord qui est un moyen de pouvoir sensibiliser également la population, autant locale qu'estivale, qui viendrait donc d'un peu partout dans le monde, à notre richesse. Sachant qu'on a ici, effectivement, en Méditerranée, 10% de la biodiversité globale de toute la faune sous-marine, c'est quand même assez exceptionnel.
Alors, on parle des dauphins, d'aller vers les dauphins ou d'aller nager à proximité des dauphins, mais ce qu'on observe quand même, c'est que les dauphins n'hésitent pas à venir au-devant des bateaux ou venir même près des plongeurs ou des nageurs. Pourquoi, vous qui êtes éthologue, dites-nous pourquoi ils le font ?
Alors ça, c'est la question qui taraude beaucoup de
gens. Parce que les baleines le font pas, par exemple.
Non, effectivement, les baleines sont des animaux un petit peu plus placides, on va dire, en termes d'interaction. Les dauphins sont des mammifères à gros cerveau. Ils ont effectivement, selon les espèces, des comportements exploratoires qui sont assez sophistiqués. Donc les sociétés animales de toutes les familles de dauphins ont des approches généralement assez régulières à l'étrave des navires pour justement faire ce qu'on appelle des comportements exploratoires. Mais ces animaux-là sont beaucoup plus en fait intrigués par souvent la signature acoustique, le bruit d'un moteur, que pour venir observer directement les gens à bord des bateaux. Donc je pense que c'est surtout des comportements exploratoires par rapport au bateau, sachant qu'après il y a des espèces exceptionnelles en termes de curiosité, comme les globicéphales, hein, ce sont des grands dauphins noirs qui sont occasionnellement visibles en Méditerranée et qui eux ont cette capacité à venir se coller directement à la carène des navires.
Oui.
C'est des comportements qui restent encore extrêmement mystérieux parce qu'on n'a pas encore de moyens de pouvoir comprendre exactement quel est le sens de ce contact. Et c'est vrai que les dauphins ont un contact extrêmement interactif avec nous les hommes. Je pense qu'on peut se souvenir de tous ces cas de dauphins dits ambassadeurs, qui sont généralement des grands dauphins.
Oui, ce sont les dauphins qui sont seuls, mais qui viennent au contact dans les ports, etc., au contact de l'homme.
Absolument. Ce sont des dauphins qu'on a effectivement vus pendant des périodes extrêmement courtes ou longues venir généralement dans des anses portuaires, dans des criques, vivre au contact de l'homme. Et qui vont après, pour certains d'entre eux, repartir vers des groupes au large au bout d'un an, au bout de 6 mois. Et ces animaux, en fait, on a pu détecter que, après certaines études qui avaient été effectuées sur ces dauphins ambassadeurs, que ça vient effectivement d'une grande capacité, d'une grande plasticité comportementale et cérébrale de ces animaux qui sont en capacité de pouvoir s'écarter d'un groupe premier et vivre une expérience un petit peu comme des fois les adolescents font quand ils vont prendre leur sac à dos et qu'ils vont faire le tour du monde. Un peu cette capacité éventuellement pour faire d'anthropomorphisme à s'échapper vers des milieux qu'ils ne connaissent pas.
Bon, alors si on est dans la région, si on prend un des opérateurs qui nous emmène voir les dauphins, les baleines, on est sûr d'en voir?
Alors, moi qui suis régulièrement en Villefranche-sur-Mer sur des gros bateaux d'observation, on est sûr de voir à 99% les dauphins les plus référentiels, qui sont les dauphins bleus et blancs.
Oui.
Qui sont des dauphins extrêmement présents, puisque c'est la plus grande population. Il y a plusieurs dizaines de milliers de dauphins bleus et blancs en Méditerranée. Et ce sont les contacts les plus importants avec lesquels on peut faire de belles observations en milieu naturaliste. Et ça, c'est quand même très important. C'est des dauphins qui sont libres, qu'on ne verra jamais dans des lieux captifs, parce que déjà, ces animaux ne supportent pas la captivité.
Et
c'est vraiment la grande capacité d'observation avec ces animaux. Ensuite, vient les grands cétacés comme les cachalots et les rorquals communs, de manière plus occasionnelle, parce qu'il faut, pour les voir, que ces animaux puissent être dans la zone de navigation des bateaux commerciaux. qui aujourd'hui va jusqu'à 20 000 en mer. Donc si effectivement il y a des baleines à 30 ou 35 000, pour des capacités de réglementation et des capacités bien évidemment d'activité, on ne pourra pas aller voir ces animaux. Donc généralement 20 000 en mer, c'est déjà très loin. Et ça correspond souvent à des bancs de krill qui reviennent effectivement dans ces zones. Et là, effectivement, on peut voir des grands cétacés, ce qui sur une sortie de whale-watching correspond à peu près à une chance sur trois de voir du grand.
C'est déjà bien, c'est sur les côtes françaises quand même, hein, c'est bien.
Et c'est sur les côtes françaises, absolument. Donc effectivement, on a cette biodiversité ici en Méditerranée, ça c'est très important. On n'a pas besoin d'aller au bout du monde pour voir des baleines ou des dauphins. Et je crois que c'est ce qui rentre quand même de plus en plus quand même dans l'ancrage maintenant culturel des gens. Mais c'est vrai qu'il y a encore 15 ans en arrière, les gens étaient un petit peu interrogés, pensaient même que c'était une escroquerie de dire « Attendez, il n'y a pas de baleines, il n'y a pas de dauphins en Méditerranée ». On arrive maintenant, vous les médias, avec tout un travail effectivement de sensibilisation, à pouvoir convaincre de l'existence de cette magnifique faune.
Merci beaucoup Philippe.
Merci beaucoup.
Ben, je vous remercie.
Je vous encourage à aller sur votre site qui s'appelle philippemore.fr et puis vous avez écrit aussi un livre qui s'appelle Les cétacés du bassin azurien, on vient d'en parler, aux éditions Cap Découverte. Merci beaucoup. Bonne journée.
Merci à vous.
Au revoir.
Voilà, et Philippe Mort, ça s'écrit M-A-U-R-T. On revient dans un instant Laetitia et nous allons accueillir un autre invité, il s'agit de Maëlle Le Provost. Je vous rappelle que ce matin, on observe les animaux sauvages en liberté en France avec nos invités. A tout de suite, on est là dans une minute.
Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Le week-end des experts, les animaux. Comme chaque dimanche, Laetitia Barlerin m'accompagne jusqu'à 8h sur RMC. Et Laetitia, alors que les vacances battent leur plein, eh bien on propose à tous ceux qui nous écoutent ce matin d'observer des animaux sauvages en liberté. Pourquoi ne pas se faire une petite croisière pour découvrir justement des animaux, Laetitia?
Et oui, et pourquoi pas aller en Bretagne, oui, l'archipel des Sept Îles. Et nous sommes avec Maëlle Le Provost, qui est marin guide chez Armor Navigation, qui propose des croisières justement sur l'archipel des Sept Îles. Maëlle, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Alors, cet archipel est une réserve naturelle et c'est aussi un site touristique incontournable pour tous les amoureux des animaux. Alors, dites-nous justement quels sont les animaux qui peuplent ces îles.
Alors après, sur l'archipel des Sept Îles, les oiseaux qu'on peut croiser, c'est des oiseaux essentiellement marins, et c'est la plus grande réserve ornithologique d'oiseaux marins de France, avec la seule et unique colonie de fous de bassin de France.
Il y a combien de couples?
21 217, exactement.
Exactement.
Ah ouais.
Vous les avez tous comptés.
Alors, c'est pas moi personnellement qui les compte, parce que cette réserve naturelle est sous la gestion de la LPO,
oui,
la Ligue de protection des oiseaux, voilà. Et tous les ans, ils vont prendre une photo aérienne. Et puis, comme les fous de bassin, il y a toujours un des deux sur le nid, bah, il leur suffit de compter le nombre de points blancs. Donc, tous les ans, ils sont capables de nous donner le nombre exact de couples nicheurs sur les rosiques.
Quels autres oiseaux peut-on voir?
Alors, des oiseaux beaucoup plus rares et moins nombreux sur le site, mais plus nombreux dans le monde. Il y a les alcidés. Les alcidés, ils sont pas très connus. Il y a le guimau de Treuil, le pingouin torda, le petit pingouin, le dernier représentant de son espèce, et l'oiseau marin le plus rare de France. Et aussi le macaremoine, le célèbre macaremoine.
Ah oui, très beau.
Avec son bec multicolore.
Voilà, c'est l'emblème justement de la LPO.
Oui, voilà. Et de Pérovirec.
Exactement.
Et le nom du bateau où je suis aujourd'hui.
Ah, c'est pas vrai. Alors, justement, est-ce que l'été est la bonne saison pour aller faire une croisière sur votre bateau?
Alors, de toute façon, d'avril à septembre, c'est un bon moment parce qu'il y a toujours des oiseaux sur l'archipel. Mais justement, ces alcidés, le pingouin, le macareux et le guimau, eux, on peut les voir de mi-mars à mi-juillet. En fait, on a coutume de dire qu'ils partent pour le feu d'artifice du 14 juillet.
Ils sont partis
tous les ans.
Alors
voilà. J'en ai observé deux il y a deux jours et depuis, on n'en voit plus.
Ah, zut. Bon, enfin, il y a tous les autres oiseaux parce qu'il y a des
multitudes
d'oiseaux. Oui.
Cormoran huppé, le goéland, le plus commun d'entre tous, celui qu'on voit partout. Et puis aussi, comme j'entendais tout à l'heure, les mammifères marins qu'on peut observer de temps en temps au niveau de l'archipel.
Alors, quel mammifère marin, justement? Est-ce que vous avez des phoques?
Oui, on a des phoques gris, oui. On a une belle colonie de phoques gris, il y a une quarantaine. Bon, on ne peut pas être sûr de nombre de phoques gris qu'on voit autour de l'archipel parce qu'ils sont très vagabonds.
Donc, ils ne passent pas le contrôle.
Voilà, c'est ça. Mais quand même, la LPO est aussi en recensé une cinquantaine autour de l'archipel cette année.
D'accord. Est-ce que vous voyez des cétacés?
Oui, alors, j'en ai parlé du rorqual tout à l'heure.
Oui.
On en a croisé un seul depuis le début de la saison.
Oui.
Et c'est la première fois qu'on en croise un. Mais autrement, on a dauphin commun, dauphin de ruisseau, grand dauphin, marsouin, et puis même un requin taupe. Bah, plusieurs requins taupes.
D'accord. Ah oui. Non, mais c'est très très riche, c'est génial. Hein.
Ah, ouais.
Ah oui.
Et du coup.
Pour réussir à tomber dessus.
Oui, bah oui, c'est sûr. Et alors, faites-nous vivre un petit peu votre croisière. Est-ce que vous accostez sur les îles ou est-ce que vous tournez autour des îles?
Il y a deux balades proposées par la compagnie. C'est soit, dans un premier temps, la balade classique, 2 heures, on fait le tour de l'archipel et on observe les oiseaux et nous, on commente en direct tout ce qu'on voit.
Oui.
Avec la fin de la balade par la côte de Granit Rose.
Oui.
La plus grande côte de granit rose de France, parce que c'est
magnifique.
La seule côte, voilà, avec plein de formes dessinées avec l'érosion.
Mmh.
Et autrement, il y a la proposition de la balade avec escale. Donc, vous arrêtez 3 quarts d'heure sur l'île aux Moines.
L'île
aux Moines morbihanaise. L'île aux Moines de Perros-Guirec.
D'accord.
Elle s'appelle l'île aux Moines parce qu'elle a déjà connu des moines.
Ah, ben oui.
Simplement.
Et souvent, il y a des moines sur les îles.
Ah, ben en fait, c'est parce qu'ils deviennent trop riches. Donc, c'est pas leur frein de vie. Eux, ils ont. Il y a un dicton qui dit que si on est malheureux sur Terre, on serait heureux au paradis. Donc, ils cherchent un endroit austère et isolé.
Ah oui, d'accord.
Tout simplement.
Ah bah voilà, tout simplement. Non, mais en tout cas, c'est pas austère là quand on fait des croisières avec vous.
Ah non.
Les oiseaux sont pas dérangés, même pendant
Ça fait très longtemps qu'ils nous voient passer devant eux.
Ouais.
Donc, ils ont pas. Et en plus, on est des gros bateaux, on fait beaucoup de bruit, donc ils nous entendent arriver de loin.
D'accord.
Ils ont plus souvent peur des kayaks, des petites embarcations qui le semi-rigides à couleur vive.
D'accord.
On le remarque, hein, dès qu'ils s'approchent comme ça, les phoques vont à l'eau, alors que nous, ils n'ont pas peur de nous.
Bah vous avez un code de conduite aussi.
Oui, mais on s'approche presque aussi près qu'un zodiac. Hein. Nos pilotes sont expérimentés, et puis ça fait des années qu'ils travaillent autour de l'archipel.
D'accord. Alors, faut être équipé de jumelles, d'un appareil photo.
Appareil photo, mais de toute façon, les souvenirs restent dans la tête. Mais l'appareil photo, c'est toujours bien. Jumelles aussi, hein, c'est encore mieux. Mais surtout, si vous voulez passer une balade, il y a toujours du vent en mer, hein, donc faut toujours se couvrir. Même si c'est trop chaud, faudra l'enlever. Mais si vous voulez aller au pont supérieur pour pouvoir les observer, faut pas hésiter à prendre un blouson, hein, pour pouvoir partir en mer. Et nous, la météo, elle change comme...
C'est la Bretagne. Hein.
Bah voilà, on a 4 saisons en une journée.
C'est vrai. Bon, dites-nous un peu où on peut vous trouver et quels sont les tarifs.
Alors c'est à Perros-Guirec, plage de Trestraou.
Oui.
Donc ça, c'est pour toute l'année. Et le début de saison de avril à septembre. Et autrement, en juillet et août, vous pouvez nous trouver au port de Ploumanac. Il y a un départ. Il y a des départs pas tous les jours, mais pendant la semaine. Et à Trégastel. Alors c'est, si je vous dis pas de bêtises, 18 euros la balade de 2 heures.
Oui.
Et 20 euros 21 la balade de 2 heures et demie, avec l'escale sur l'île aux moines de 45 minutes.
D'accord. Et pendant les 45 minutes, on se balade, on rencontre les moines.
Vous êtes sur l'île. Ouais, vous rencontrez les cousins du lièvre.
Les cousins du lièvre.
C'est quoi?
Alors,
les cousins du lièvre?
C'est un mot qui est interdit à bord d'un bateau. C'est le rongeur à grandes oreilles.
Oui, c'est vrai.
Et puis ça dépend, les capitaines, ils sont capables de vous séparer de ce bord.
Les lagomorphes.
Voilà, c'est ça.
Voilà, très bien.
Ah oui, d'accord.
Donc en fait, les gardiens de phare les avaient amenés pour pouvoir se distraire et chasser un peu pour passer le temps.
Oui, c'est sûr.
Donc c'était pas très...
Il y a une épidémie de myxomatose tous les ans, donc il y a une autorégulation.
D'accord. Bah oui, on est sur une île.
Voilà, tout se passe bien.
Mais donc, nous, on ne peut pas venir sur l'île avec la carabine quand même, c'est pas possible.
Non, on les laisse tranquilles.
C'est une réserve de chasse, hein, donc personne n'a le droit de chasser sur l'île.
Bah, bon, j'espère bien. Sur toutes les îles, sur l'archipel.
Depuis 1912.
Voilà, c'est une réserve naturelle, c'est magnifique.
Voilà.
Et vraiment, si vous êtes sur les côtes d'Armor, allez passer 2 heures en excursion, c'est super pour aller photographier les oiseaux et peut-être les phoques si vous avez de la chance.
Voilà.
Merci. Merci Maël.
Merci Maël. Bonne
journée.
Bonne croisière.
Au revoir.
Très sympathique Maël. Ça donne envie d'y aller, hein, Laetitia.
Bah oui, moi j'adore la Bretagne. Et alors là, en plus, l'archipel avec des oiseaux, des fous de bassin, oh là là.
Bon, et si on allait, il est bientôt 7h30, on va retrouver la météo, les infos. Si on allait après découvrir un animal majestueux, Laetitia. Moi je pense que c'est sans doute mon oiseau préféré parce qu'il est vraiment superbe. C'est le flamant rose.
Parce qu'il est rose?
Non, mais parce qu'il est beau. Je trouve que c'est un oiseau majestueux.
C'est vrai.
Et c'est vrai qu'il est, en plus, il est rose. C'est quand même rare, hein, pour un oiseau. On en parle dans un instant. Et puis le 32-16, si vous voulez poser votre question à Laetitia, ou bien animaux@rmc.fr, météo info. On est de retour, à tout de suite.
RMC jusqu'à 8h, vos animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel.
C'est le retour du week-end des experts, les animaux. Un bon dimanche. Notez qu'à partir de 8h tout à l'heure, vous retrouverez Jean-Luc Moreau pour l'automobile. Laetitia, d'ici 8h, nous allons découvrir la vie d'un refuge pour animaux l'été.
Ben, c'est bien de prendre la température dans les refuges cet été, parce que vous savez, beaucoup de refuges dénoncent les abandons qui grimpent, bien sûr, juste avant les vacances et pendant les vacances. Et on espère aussi que les adoptions aussi sont nombreuses cet été. Donc voilà, c'est bien de savoir un petit peu la vie d'un refuge pendant l'été.
On va aussi continuer notre visite, observer des animaux sauvages en liberté en France. Tout à l'heure, on ira voir des veaux marins en baie de Somme et puis aussi des flamants roses dans quelques minutes avec Frédéric Lamoureux. Mais auparavant, voilà, maintenant, Laetitia, c'est des veaux que nous allons découvrir.
Bah, c'est pas des veaux, c'est des phoques.
C'est des phoques, mais alors ça s'appelle des veaux marins aussi ?
Oui, exactement. Et nous sommes justement avec Fabien Chancel, qui est directeur de la maison de la baie de Somme, qui est en Picardie. Fabien, bonjour, bienvenue.
Bonjour Laetitia, bonjour François.
Bonjour Fabien.
Alors on dit que la baie de Somme est un estuaire merveilleux pour les amoureux de la nature. Alors parlez-nous justement de la faune de la baie de Somme.
Alors effectivement, vous allez avoir la chance d'avoir en baie de Somme à peu près 7200 hectares d'estuaires qui vont permettre de venir observer aussi bien les phoques comme vous en avez parlé, mais également énormément d'espèces d'oiseaux différentes. Il faut savoir que en 365 jours, on peut avoir jusqu'à 320 espèces d'oiseaux différentes, donc sur l'année.
Wow.
On vient passer par chez nous.
Qui passe, enfin, certaines espèces sont sûrement sédentaires, d'autres font un arrêt sur la baie de Somme, c'est ça?
Voilà, c'est ça. On a la chance d'être, on va dire, une immense aire de repos sur l'autoroute de la migration, et donc ça va permettre aux oiseaux de venir reprendre un peu de force pour continuer le voyage. Et puis, certaines espèces vont se sentir tellement bien chez nous qu'elles vont décider d'y rester pour la nidification.
J'imagine, parce que c'est tellement beau. J'ai visité la baie de Somme. Franchement, on a l'impression d'être dans un autre pays, d'être au bout du monde, vraiment. Hein.
Ah, vous avez des paysages qui sont magnifiques, vous avez des lumières qui sont changeantes à chaque heure de la journée quasiment. Vous avez bien sûr le rythme des marais aussi qui va venir ponctuer tout ça. Donc oui, c'est vraiment des paysages où vous pouvez vous sentir tout seul au bout du monde pendant quelques instants sans aucun souci. Ouais.
Alors la baie de Somme est connue quand même pour ses phoques, parce que c'est quand même le plus important rassemblement de phoques en France. Ce qui est formidable, c'est qu'on peut vraiment observer les animaux à n'importe quelle période de l'année. Et alors pas près, mais on les observe quand même.
Voilà, alors on aura des phoques qui vont être présents toute l'année en baie de Somme, alors plus ou moins selon la période de l'année. Là en ce moment, sur fin juin, début juillet, on est sur les plus belles périodes avec le plus gros nombre. On a à peu près à peu près 400 phoques veaux marins qui sont présents et une petite centaine de phoques gris. On a deux espèces qui vont cohabiter. Et ces deux espèces, vous allez pouvoir les retrouver de janvier à décembre. Alors, on va pouvoir les observer effectivement plus ou moins près dans l'estuaire selon le moment de l'année. Et on va toujours garder une distance pour éviter le dérangement d'environ 300 à 400 mètres. On ne va pas s'approcher plus près que ça. Mais vous pouvez faire de très belles observations à partir du moment où vous avez un peu de matériel d'optique, des jumelles ou une longue vue, vous partez avec un guide. Vous allez pouvoir justement les regarder à marée basse, soit en temps de repos. Donc pour eux, la marée basse, c'est le moment où on va en profiter, où on va se reposer. Et après, vous pouvez les voir aussi à marée montante et à marée haute, là en période d'activité, pour aller chasser, pour aller se nourrir et aller pêcher du poisson.
Ah oui, donc marée haute ou marée basse, c'est très bien. Alors, marée basse, ils restent sur le sable. Pourquoi ils ont besoin de rester comme ça?
Eh bien, c'est comme la nuit pour nous. C'est-à-dire que vous aimez bien aller dormir le soir, eh bien eux, en fait, vont vivre avec le rythme des marées. Donc la marée haute va leur amener la nourriture, et donc c'est le moment où on va se mettre à l'eau pour aller chasser, pour aller se nourrir. Et la marée basse, la marée étant repartie, les poissons étant repartis aussi, eh bien on va en profiter, on va se mettre sur le sable, et là, eh bien on va se réchauffer, on va synthétiser de la vitamine D, on va se mettre au soleil, on va en profiter pour faire un petit somme également.
Alors le printemps, l'été, c'est aussi la période des naissances. Vous avez beaucoup de naissances, surtout de veaux marins. Et d'ailleurs, faut quand même le dire, ces animaux ont failli disparaître. Je crois même qu'ils n'en avaient plus du tout en baie de Somme à un moment.
Alors, il n'y en avait quasiment plus. Il y en a toujours eu quelques-uns, quelques spécimens. Il n'y en avait quasiment plus, effectivement. On avait une population qui a chuté énormément. Et là, par exemple, pour cette année, donc le dernier comptage qui a eu lieu le 13 juillet, on est à 63 naissances cette année. Et là, la population, pour 2015, est remontée sur les standards de la fin du 19e siècle. Donc on a vraiment réussi à faire remonter la population et à retrouver un niveau acceptable qu'on connaissait dans l'estuaire il y a de ça à peu près un siècle.
Donc ça veut dire qu'au mois d'août, on peut voir des bébés phoques.
Au mois d'août, vous pouvez voir tout à fait des bébés phoques. Les mises bas ont lieu chez le veau marin entre fin juin et on va dire la première quinzaine de juillet. Du coup, là, vous pouvez voir en ce moment, les mères avec le petit, qui vont être ensemble sur la plage le temps du sevrage. Et puis ensuite, une fois que le sevrage est accompli, chacun va vivre sa vie. Il n'y a pas de lien très fort entre la mère et le petit. Une fois que le sevrage a eu lieu, chacun prend son indépendance et reprend sa vie.
Alors pour aller les observer les oiseaux, on peut y aller à pied, donc avec un guide. On peut, je crois qu'il y a aussi des balades à cheval ou en barque.
Alors il y a différents types, voilà, selon ce que vous voulez voir. Si vous voulez voir plutôt le phoque véritablement dans l'eau, c'est là où il est le plus à l'aise, où il est le plus agile. Il y a différents bateaux qui vont vous permettre de sortir en baie et d'y aller. Vous avez également possibilité de venir le voir sur le sable à marée basse, donc au moment où il se repose, toujours en gardant cette distance pour éviter le dérangement. Là, ce sera obligatoirement avec un guide, vu que la baie de Somme est quand même un écosystème qui est dangereux pour les gens qui ne le connaissent pas. Donc on part avec un guide, on part sur les bancs de sable et on partira faire de l'observation de la colonie de phoques. Pour les oiseaux, on va faire exactement la même chose, mais là, c'est l'inverse du phoque. L'oiseau, lui, à marée basse, il vient manger, c'est son temps d'activité. Et par contre, à marée haute, l'oiseau quitte l'estuaire et va dans des réserves, dans les dortoirs, pour pouvoir se reposer.
Ce qui veut dire qu'il y a deux balades déjà de prévues, marée haute et marée basse.
Il y a déjà deux balades de prévues, voilà, marée haute, marée basse. Et ensuite, vous pouvez choisir si vous préférez le phoque, l'oiseau, ou essayer de voir les deux à marée montante ou à marée descendante.
Et on peut vraiment s'approcher d'eux?
On va rester sur une distance de 400 mètres à pied lorsqu'on est vraiment à marée basse.
Ouais.
Par contre, à marée haute, le phoque étant un animal extrêmement curieux et beaucoup plus agile que nous dans l'eau, à marée haute, depuis un bateau, il est capable de venir très très proche de nous.
Parce qu'il est meilleur nageur.
Il est curieux. Et je pense qu'ils sont myopes aussi, donc ils se rapprochent.
Ils voient rien du tout.
Ils voient rien de loin. Ils ont une mauvaise vue. Et du coup, ils se rapprochent. C'est marrant parce que il suffit de laisser le bateau, stagner. Voilà. Et ils s'approchent même. De temps en temps, on voit une tête qui sort de l'eau et puis s'invoque. Voilà.
Voilà, c'est ça. C'est vraiment un animal qui a une très mauvaise vue. C'est pour ça qu'à marée basse, si vous venez à pied, pour lui, il va voir de loin une grande tache noire. Donc potentiellement un prédateur, et là le risque de dérangement c'est qu'il reparte à l'eau et qu'il coupe son cycle de sommeil. Par contre à marée haute dans l'eau,
oui, là,
pour
il
lui
est plus à l'aise.
Très curieux, il va voir des formes, il va sortir sa tête, il peut s'approcher à 10-15 mètres de vous et commencer à vous dévisager pour essayer de voir à quoi il a affaire.
Combien ça coûte Fabien ces visites, ces promenades?
Alors nous, par exemple, au niveau de la Maison de la Baie, on vous propose des sorties pour l'observation de la colonie de phoques à 11 euros par personne pour les adultes et on est à 7 euros pour les enfants.
Oh, c'est pas cher.
C'est bien pour les familles,
voilà,
c'est très bien.
Très abondant.
On est sur une prestation de 2 heures où vous partez avec un guide qui va vous, en même temps bien sûr que de vous parler du phoque, vous faire découvrir l'écosystème dans lequel vous êtes.
Et oui, bien sûr.
Le but c'est aussi de vous parler de la baie de Somme, de la manière dont on la protège et de la manière dont elle s'est créée et dont elle évolue, quoi.
Il y a beaucoup de choses à dire, c'est très riche là-bas. Merci beaucoup. Donc voilà, si vous passez en baie de Somme, alors vraiment, il faut s'arrêter, aller voir la nature, parce que c'est vraiment fabuleux. Vous êtes dans un autre monde.
Et puis c'est chez nous.
Merci beaucoup.
Voilà.
Merci.
Voilà. Merci.
Une des
merci,
richesses
Fabien.
De notre pays, hein, Laetitia. Hein, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des régions sublimissimes.
Exactement, et on y pense pas.
Il faut en profiter, bien
c'est pas
évidemment.
Loin.
Laetitia, on va un petit peu plus au sud maintenant.
Voilà, en Camargue par
et
exemple.
Voilà, on va retrouver Frédéric Lamoureux pour découvrir en Camargue qui. Alors en Camargue, il y a quoi? Il y a les taureaux,
chevaux,
les chevaux et les flamants en rose.
Et puis d'autres oiseaux quand même
et
aussi.
D'autres oiseaux.
Bon, mais c'est vrai que
après,
c'est l'emblème.
Il y a les moustiques aussi.
Il y a aussi les moustiques.
Bonjour Frédéric.
Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Vous
bonjour.
Êtes responsable du parc ornithologique du Pont de Gau au Sainte-Marie-de-la-Mer. C'est où? Dans les Bouches-du-Rhône, bien sûr, bien sûr. Et alors, ce parc est au cœur du parc national régional de Camargue, donc bien connu pour ses populations de flamants roses. D'ailleurs, faut quand même dire que le flamant rose a failli disparaître de Camargue.
Oui, oui, absolument. C'est un oiseau qui était en train de disparaître dans les années 60.
Oui.
Et en fait, il a été sauvé grâce à l'action conjuguée de deux hommes. C'est Luke Hoffman, qui vient de disparaître malheureusement cette semaine, et puis Alan Johnson, qui nous a quittés aussi il y a deux ans, qui étaient deux ornithologues passionnés d'oiseaux, qui se sont rendus compte que le flamand était en train de disparaître de Camargue, parce qu'en fait, il nichait sur des lieux qui étaient complètement ouverts au public, et les gens allaient voir les colonies, dérangeaient complètement les oiseaux dans leur cycle de reproduction. Et puis, ils ont décidé, fin des années 60, de créer un îlot, grâce à l'aide aussi des Salins du Midi et du Parc Naturel Régional de Camargue, de créer un îlot dans une zone qui était complètement inaccessible. Donc, c'est un îlot artificiel, avec une régulation d'eau totalement maîtrisée, contrôlée, sur lesquelles les Flamands ont commencé à nicher dans les années 70. Et ça a complètement sauvé en fait la population de flamands, non seulement en Camargue, mais en Europe, puisque grâce à cette reproduction camarguaise, en fait le flamand a pu être sauvé. Et puis aujourd'hui, on a une population européenne, hein, ou méditerranéenne, on va dire, qui se porte très très bien grâce à ça.
C'est génial. Et combien de couples vous avez à peu près sur votre parc, hein?
Alors sur le parc, nous, les flamands ne nichent pas forcément chaque année. Là, en population, on peut observer chaque jour, si on vient sur le parc du Congo, entre 300 et 600 individus.
Oui.
Qui sont assez visibles. Hein. L'intérêt majeur du site, en fait, c'est que nous, on a aménagé des sentiers de découverte en plein cœur des marais, et les oiseaux sont très très près. Donc les flamands, j'ai connu tout à l'heure un peu l'interview sur les phoques. En fait, les flamands n'ont pas de curiosité particulière, mais c'est un oiseau qui est protégé depuis les années 70, qui commence petit à petit à être beaucoup moins farouche, et on arrive à l'observer de plus en plus près.
Ah
et
oui?
Au parc, on a aménagé des sentiers, en fait, et on passe en fait au cœur de l'eau. C'est-à-dire qu'on est entouré de flamands, donc on a comme ça, chaque jour, quand on passe le matin ou le soir, c'est entre 300 et 600 oiseaux qui vous observent. Alors,
c'est eux qui nous observent, du coup.
Oui, on a voulu changer la donne, en fait. On a voulu changer la donne, c'est-à-dire que dans les années 70, pour observer les oiseaux, il fallait les mettre en cage et puis les observer dans des eaux. Et puis, nous, on a voulu complètement inverser le système. En fait, on a enfermé les visiteurs sur les sentiers, dont ils ne peuvent pas sortir. Alors, nous aussi, évidemment, puisqu'on en fait partie. Et puis, les oiseaux vont et viennent librement autour de nous.
Et oui, mais c'est tellement bien chez vous. Vous avez tout aménagé pour que ça soit bien.
Oui, on a essayé. En tout cas, donc l'observation est assez facile, et c'est vrai qu'on peut voir des oiseaux de très très près. Alors les flamands, bien sûr, parce que c'est l'oiseau emblématique de Camargue.
Et les autres oiseaux, qu'est-ce qu'on a comme autres?
On a plein d'oiseaux de passage, parce que là on est fin juillet, début août, et il faut savoir que c'est le moment de la migration de retour des oiseaux. C'est-à-dire que les oiseaux qui ont niché au nord de l'Europe au printemps sont en train de redescendre et de passer chez nous.
Ah oui, c'est l'escale retour, en fait.
C'est ça, c'est l'aire d'autoroute, et c'est un peu la station service.
Comme on dit dans les aéroports, vous êtes un hub.
Ouais, exactement.
C'est ça.
On est un hub de nourrissage. En fait, il faut savoir que les oiseaux font des étapes, évidemment, tout au long de leur migration. Et la Camargue, c'est une des stations service les plus prisées d'Europe, de France. Et donc, nous, on est un petit peu là à aménager le site pour que les oiseaux puissent s'y arrêter. Donc, aménager le site, c'est-à-dire qu'on va baisser les niveaux d'eau, on va créer des vasières, on va planter certains arbres à tel endroit, etc. Enfin, on va vraiment, en fait, préparer le terrain pour que lorsque les oiseaux passent en passage migratoire, ils puissent venir s'installer chez nous, passer quelques semaines, quelques jours, voire plus longtemps, et que les visiteurs, quand ils viennent les visiter, puissent les voir le plus facilement possible, encore une fois.
Moi, j'ai vu en Camargue des cigognes. Vous en avez vu?
Oui, plein.
C'est vrai?
Oui. Il y a un couple qui niche sur le parc. Oui. Il y a un site où on travaille aussi également, où il y a une quinzaine de couples. Et en fait, la cigogne, elle s'est complètement réapproprié la Camargue. Il y a plusieurs facteurs à ça. On pense que, en fait, les vents qui soufflaient très fort au printemps ont un petit peu baissé. Donc, la cigogne qui niche en hauteur, finalement, elle est moins gênée. On pense aussi qu'il y a des ressources alimentaires qui ont été beaucoup plus nombreuses. C'est-à-dire que on pense notamment à l'écrevisse de Louisiane, hein, qui est une écrevisse qui est un petit peu une espèce invasive.
Oui.
Mais en fait, la cigogne en consomme beaucoup. Il y en a beaucoup en Camargue. Et quelque part, ça a contribué aussi.
Et oui.
Ouais, c'est ça. Vous avez raison, ça a contribué à la à la renaissance en fait de la reproduction de la cigogne en Camargue.
Bon, alors il faut venir avec ses jumelles ou ils sont très près les oiseaux, on peut bien les photographier?
Oui, on peut venir sans jumelles parce que globalement on peut les voir de près. Après nous on en loue à l'accueil, donc on peut effectivement aussi, au cas où on a oublié des siennes, louer des jumelles. Les jumelles c'est mieux, c'est un plus, c'est-à-dire que ça vous permet de voir de loin.
Oui, bien sûr.
L'œil ne peut pas distinguer. Tout à l'heure, on parlait des phoques hein, qui voient des formes. Bah, nous, on voit des oiseaux. Alors, quand ils sont à 10 mètres, évidemment, les jumelles ne servent à rien. Mais lorsqu'on a des oiseaux qui nichent sur des arbres, par exemple, comme les hérons en ce moment, bah, vous avez, si vous avez des jumelles, vous arrivez à voir des détails, en fait, des petits, des parents qui nourrissent. Enfin, c'est toujours plus sympa, quoi.
Et si on a un bel appareil photo, là, avec un bel objectif, on doit pouvoir faire de magnifiques clichés, j'imagine. Hein.
Oui, je pense que là, les photographes qui viennent en ce moment sont assez contents. Ouais. Mmh. En plus, on a un système, on peut rester jusqu'au coucher du soleil, puisque nous, on ferme le bureau d'accueil vers 19h.
Mmh.
Et par contre, on laisse la sortie ouverte. Ouais, voilà.
Ah, c'est super. Les couleurs avec les flammes en rose.
C'est ça, vous avez raison.
Quels sont les tarifs d'entrée de votre parc?
Alors, le tarif d'entrée pour les adultes, c'est 7,50 €. Et pour les enfants, c'est 5 € de 4 à 12 ans.
Bon. D'accord. Ah oui, il y a plusieurs circuits pédestres. Hein,
oui,
on va dans les marais.
Oui, on est sur quasiment 8 km de sentier pédestre.
Ah oui, quand même.
Possible. Possible, évidemment.
Belle balade.
Vous conseillez quand même les lotions anti-moustiques ou c'est superflu?
Alors écoutez, normalement je vous aurais dit oui, prenez des lotions anti-moustiques, équipez-vous de manches longues. Mais cette année c'est un peu particulier, on n'a quasiment pas de moustiques.
On en a dans le nord. Hein.
Bah écoutez, on vous les a envoyés, je pense.
Ouais, merci beaucoup, voilà. C'est sympa.
Non, mais c'est... Bah oui,
mais on sait pourquoi il n'y en a pas cette année?
Alors écoutez, il y a plusieurs... pareil, encore une fois, il y a toujours plusieurs hypothèses. On a un mois de juillet qui est très venté. Donc le vent et les moustiques, ce n'est pas très bon ménage.
Ah, voilà, ouais.
On a eu un printemps qui était plutôt sec et assez froid.
Ouais.
Donc les éclosions... pas terrible.
Donc puis, c'est peut-être un concours de circonstances, en fait. Voilà, c'est plusieurs éléments qui font que...
Vous savez, absolument, tout à fait. C'est toujours comme ça, en fait. Mmh. Hein. Et les moustiques ont besoin d'eau. D'eau et d'un temps très humide et sans vent, avec un ensoleillement pas trop fort non plus. Donc là, c'est parfait. Quoi. Cette année, on a très peu de moustiques.
C'est très bien. Alors, il faut aller d'autant plus visiter cette belle région. Merci, Frédéric.
Donc, c'est le parc ornithologique du Pont de Gau au Sainte-Marie-de-la-Mer. Et je vous conseille vraiment d'y aller en famille. Alors, peut-être pas à midi, il fait un peu trop chaud. Mais voilà, en matinée ou en soirée. Là, c'est génial avec les lumières. Voilà.
Merci Frédéric.
Vous avez 100 fois raison. Merci à vous. En tout cas.
À bientôt.
Merci Frédéric. Merci. Bonne journée.
Au revoir.
Bon, Laetitia, voilà pour cette petite visite. J'espère qu'on vous a donné quelques bonnes idées de sortie, en tout cas. Et on n'a pas terminé ce rendez-vous animaux. Dans un instant, on va aller visiter un refuge.
Eh bien oui.
Qu'est-ce que ça donne un refuge l'été, tiens?
Voilà. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'abandons, beaucoup d'adoptions? Ouais. Voilà, on va savoir un petit peu. Puis aussi, comment adopter? C'est vraiment la période hein, pour adopter l'été.
On en parle dans un instant sur RMC dans ce rendez-vous animaux. Et puis le 32-16, bien évidemment, pour nous joindre ce matin. À tout de suite.
RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Le week-end des experts sur RMC, merci d'être là. Dans quelques minutes, il sera 8h, on va retrouver la météo, les infos. Et puis juste après, ce sera Jean-Luc Moreau pour l'automobile. Laetitia toujours à mes côtés, notre vétérinaire. Laetitia, on est en plein été. S'il y a bien un endroit qu'il faut surveiller, ce sont les refuges pour animaux qui malheureusement accueillent toujours beaucoup d'individus en cette période de l'année.
Beaucoup, oui, l'été c'est sûr. Et nous sommes avec Stéphanie Sluzarek qui est présidente d'Animaux sans foyer. C'est le nom du refuge de Montgeron dans l'Essonne. Stéphanie, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Alors vous dirigez un refuge canin près de Paris. On est en plein cœur de l'été. Avez-vous eu beaucoup d'animaux proposés à l'adoption? Et surtout, avez-vous connu une recrudescence des abandons cet été?
Oui, malheureusement, comme chaque année, on a une recrudescence d'abandons un mois avant l'été. Hein, c'est-à-dire que début juin... Début juin, on commence à avoir énormément de demandes d'abandon. Donc les gens téléphonent pour abandonner un chien en prétextant diverses raisons, quoi.
Alors oui, parce que vous êtes un refuge canin, hein, pas...
On est un refuge canin, voilà. Ouais.
Quelles sont les causes invoquées?
à l'écho, ce sont toujours les mêmes. D'un seul coup, les gens s'aperçoivent que ils sont allergiques ou leur enfant est allergique. Ils déménagent. Ils ne disent jamais qu'ils partent en vacances. Mais il y a une recrudescence de séparation et d'allergie ou de diverses causes. Voilà, c'est tout le temps la même chose. Hein. Jamais on évoque les vacances. Mais le fait est que au moment des vacances, il y a énormément de demandes d'abandon.
Et donc, c'est-à-dire que les gens n'assument pas, en fait, leur
décision.
Tout à fait.
Leur décision, c'est ça.
Ouais, tout à fait.
Et concernant les adoptions, est-ce qu'il y a plus d'adoptions l'été ou pas ?
Alors, malheureusement, non seulement il y a une recrudescence d'abandon, mais il y a moins d'adoptions. Alors, on sait que les mois les plus difficiles au niveau des adoptions, ça va être le mois de juin et surtout juillet. Mmh. Après, ça redémarre un petit peu parce que les gens qui sont partis en vacances au mois de juillet reviennent et peuvent vouloir adopter un animal. Donc, on sait qu'en août, on recommence à avoir un petit peu de monde. Mais c'est vrai que voilà, les deux conjugués font que l'été, les refuges saturent.
Oui. Et ils sont beaucoup à le dire. Hein. Un peu partout en France, c'est vraiment...
C'est pas un phénomène parisien, hein. C'est partout pareil. Hein.
Alors certains pensent qu'il n'y a que des vieux animaux ou des animaux à problèmes comportementaux dans les refuges. Qu'est-ce que vous leur dites ?
Ah non, alors ça c'est réellement un a priori. On a énormément de chiots. Maintenant, ça devient catastrophique.
Des chiots.
Et que, ouais, depuis le début de l'année, une nouvelle loi est entrée en vigueur, disposant que les gens qui faisaient de la reproduction devaient, pour passer des petites annonces, lorsqu'ils cédaient un animal à titre onéreux, devaient prendre un numéro de sirène.
C'est-à-dire se déclarer. Voilà, c'est déclaré éleveur.
Tout à fait, c'est ça, tout à fait.
Et donc, ça, vous avez eu vraiment une conséquence directe avec ces abandons de chiots.
La conséquence, ça a été claire et nette. C'est-à-dire que nous, on a vu une recrudescence de chiots et de familles de chiens arriver. C'est-à-dire que non seulement les gens abandonnaient la portée, mais ils abandonnaient la maman, voire le papa, entre guillemets, ou d'autres chiens. On a vu des familles entières de chiots arriver au refuge.
Ça veut dire qu'ils faisaient de la reproduction...
Oui, simplement pour l'argent, quoi.
Pour l'argent, mais voilà.
Et qu'ils s'en foutaient complètement des animaux à ce moment-là.
Voilà. Ah bah c'est tout à fait ça.
C'est incroyable.
On a eu des cas, on a eu le cas de toute une famille de chiens qui est arrivée au refuge, où les chiens vivaient dans des cages, enfermés dans une pièce. Ils ne servaient qu'à la reproduction, ils sortaient une fois par jour, et ensuite ils étaient vendus sur des sites divers et variés. Mmh. Sauf que comme cette possibilité était annulée, du coup, ils ont abandonné toute leur famille chien.
Leur petit business.
voilà, ils ont changé.
Alors, pour ceux qui aimeraient adopter un animal, en l'occurrence un chien chez vous, comment choisir un chien dans un refuge ? Comment les aidez-vous à choisir le chien qui maintenant fera partie de leur vie ?
Alors, nous, on est très, très vigilants, c'est-à-dire qu'on a un entretien avec les adoptants.
Mmh.
On demande les conditions de vie, la composition de la famille, le mode de vie, parce que qu'on soit en appartement ou qu'on soit en pavillon avec un immense jardin, on peut pas forcément accueillir le même animal. Donc le temps de présence aussi est important. Si on n'est pas là de 7h du matin à 19h le soir, il est clair que pour un chien, c'est une grande absence.
Oui.
Ça veut dire que vous pouvez refuser une adoption.
Ah, on refuse. Quand on n'a pas le chien ou qu'on a le chien mais que les conditions de vie ne correspondent pas, nous on refuse, oui, tout à fait.
Et après, c'est un coup de cœur. Parce que...
Ah bah alors après, oui, après il faut vraiment que qu'il y ait une relation entre les gens qui viennent, entre les humains et l'animal. Donc nous, chez nous, si vous voulez, on leur sort l'animal des boxes. Il n'y a pas de visite de chenille au sein de notre refuge. On va chercher les chiens et on va les présenter. Mais comme ça leur permet d'avoir une vraie rencontre.
Ah, et non pas derrière une grille.
Ah bah oui, parce que là, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Donc là, il y a une vraie rencontre. Hier, on a placé un petit chien. Les gens sont restés, sont venus en famille. Ils étaient déjà venus la semaine précédente, mais sans les enfants, puisque les enfants étaient en vacances. Là, les enfants étant de retour de vacances, ils sont revenus avec les trois enfants et ils sont restés au moins 2 heures au refuge à jouer avec le chien, à s'assurer qu'il n'y avait pas de problème entre le chien et les enfants. Voilà, et le chien est parti et après il y a tout un suivi aussi de l'adoption. Hein, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va les avoir au téléphone, savoir comment ça se passe.
Merci Stéphanie pour ce témoignage.
Merci. Donc vous êtes présidente d'Animaux sans foyer, c'est le nom du refuge à Montgeron, dans l'Essonne.
Alors et ce il y a refuge bien sûr... à Montgeron, mais il y en a des dizaines et des dizaines partout en France.
Pour vous encourager à adopter, c'est la bonne période d'ailleurs, l'été pour adopter. Vous avez plus de temps, il fait beau, donc vous sortez votre animal.
Et puis on est en famille surtout.
On est en famille, voilà, c'est vraiment très propice pour l'adoption. N'hésitez pas, il y a énormément de chats et de chiens qui vous attendent dans les refuges.
Laetitia, ce rendez-vous animaux est terminé. On se retrouve, bien sûr...
À la fin de l'été.
À la fin de l'été. On se retrouvera le dernier week-end d'août, en fait, pour la rentrée du week-end des experts. Et durant ces quelques semaines du mois d'août, vous retrouverez chaque samedi et dimanche matin, donc, un spécial JO à Rio. Voilà, avec toute la Dream Team du sport d'AMC. Laetitia, bonnes vacances et bel été.
Ben, bonnes vacances à tous, hein, tous ceux qui partent. Très bel été à tous. Je vous embrasse, je pense à vous et je serai là, bien sûr, à la fin du mois d'août pour une nouvelle émission.
Et voilà, et dans un instant, après la météo des infos, ce sera Jean-Luc Moreau qui sera à mes côtés pour l'automobile comme chaque dimanche. À tout de suite.